good evening, bonsoir, vous êtes sur Amusgal, la radio des francophones et des francophiles. Alors bien entendu, on va vous parler ce soir de du Covid, on est avec Steph à la technique.
Bonsoir.
C'est pour ça que la musique est partie, parce que sinon ça part pas. Fred est aussi avec nous.
Salut.
Voilà, et Blandine au micro jaune, parce qu'on a des beaux petits micros tout propres, on sent qu'ils ont bien tout nettoyé là.
Ça sent le propre.
Ça
hein.
sent le propre.
C'est marrant, hein, partout ça sent le propre.
Ouais, ça va faire du bien un petit
Mais...
peu.
D'ailleurs, en fait, les gens se rendent compte à quel point les nettoyeurs sont importants. J'espère qu'on va les payer mieux à partir de maintenant.
Tu parles, tu parles. Alors, pour cette émission spéciale, moi, j'ai appelé mes amis, ma famille en France pour qu'ils nous parlent, eux qui sont enfermés et confinés, nous parlent de ce qu'ils connaissent. Et puis, bon, j'ai mon beau-frère qui est médecin, un ami qui est biologiste. Voilà, donc on a une petite fourchette de témoignages qui vont nous parler.
Moi, j'ai témoignage en direct de ma sœur qui est psy dans un hôpital.
Ben, très bien. Donc, Fred nous parlera de ça aussi. Alors, pour commencer, France oblige, maladie oblige. S'il y a une belle maladie qui peut courir, c'est la maladie d'amour. Et donc, on va écouter ça tout de suite.
Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds. Fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 60. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds.
Alors pour ceux qui nous écoutent, parce que en fait la spécificité d'Amuse-Gosse, c'est quand même c'est une radio que personne n'écoute. Et donc pour nous prouver que quelqu'un écoute, parce que bon, enfin Stéphane veut veux absolument que quelqu'un nous appelle pour prouver qu'il y a au moins une personne qui nous écoute. Donc le numéro c'est 09 815 81 02
00
00
81 00 815
comme le nombre de personnes qui nous écoutent.
00.
Oh, je comprends rien. Vas-y, redis.
09 oui. 815 81 00.
Ah, 00, pardon. Mais c'est pour ça qu'ils appellent 09, pas, Stéphane.
09-815-81-00.
Voilà, 00, comme
si
le nombre de gens qui nous écoutent.
Même si vous parlez pas français, even if you don't speak French, call us, appelez-nous. Voilà.
Alors, et puis donc, posez-nous des questions, on sera peut-être y répondre. Pour
voilà, voilà. Donc, Fred, les annonces pour la semaine.
Eh ben, il y en avait plein, mais tout a été annulé en
voilà,
fait.
Donc, alors ça va très vite.
Ça va très vite.
Donc il y a plus d'annonces. Il ne se passe plus rien sur Auckland.
Tout est reporté à une date ultérieure.
Ultérieure, voilà. Donc moi je suis allée voir Snow White, la Blanche Neige, probablement un des derniers spectacles qu'on a pu voir. Beaucoup de têtes blanches. Je me suis dit combien vont sortir vivants de ce.
Oui, nous on avait des tickets pour le week-end prochain, c'est annulé.
Oui, oui. Donc voilà. Alors on va commencer à écouter ces témoignages, c'était assez intéressant, on va pouvoir en parler parce que il y a des choses qui se profilent en France avec cette histoire-là, parce que c'est quand même particulier de demander à un pays entier de travailler différemment ou d'arrêter de travailler, etc. Et donc j'ai parlé avec plusieurs personnes en France et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Donc on va d'abord écouter Daniel qui est biologiste et qui lui-même a chopé le Covid-19.
Il est toujours malade ou
Oui, il est toujours malade. Il en parle dans son... Dans
cette petite Daniel, alors est-ce que tu peux me dire où tu es et ce que tu fais comme travail?
Je suis à Paris et je suis chercheur biologiste. Je travaille dans un institut de biologie.
D'accord. Donc, toi et Géraldine, vous avez attrapé le fameux virus. Donc, comme en tant que biologiste, ça doit être assez particulier de suivre ça. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, ouais, on a attrapé le virus, on ne sait pas comment, et les symptômes que l'on a sont des symptômes qui sont légers, mais fatigants, et on a été identifié en appelant notre médecin, et ensuite en allant le voir. Il n'y a pas eu de test, parce que en France, on ne fait plus de tests, sauf pour les cas très graves. Pour nous, ça se traduit par une fatigue et différents symptômes, mais globalement, c'est plutôt de la fatigue et ça évolue très très lentement. C'est ça qu'on trouve le plus étonnant, c'est que ça fait plus d'une semaine et ça évolue tout doucement. Voilà. Après, en tant que biologiste, il y a différentes choses. Il y a la compréhension que j'ai de la science autour de ce virus. Mais peut-être là, ce que je voulais dire, c'était que se créent depuis 2-3 jours des initiatives internationales de chercheurs. On reçoit à travers le réseau de chercheurs plusieurs initiatives où on nous propose de s'inscrire pour faire comme un réseau mondial de chercheurs où chacun, même s'il n'est pas directement impliqué dans la recherche ou les connaissances de coronavirus, peut amener son intelligence. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est que des gens qui sont experts en coronavirus vont distribuer des tâches à ceux qui ne le sont pas, mais qui sont par ailleurs biologistes, chercheurs, qui peuvent comprendre des choses. Donc moi, je suis inscrit à deux réseaux mondiaux, et donc j'attends les tâches qu'ils vont m'être données. L'autre chose, c'est que on vient en France d'avoir les consignes en tant que chercheur de la part de nos instances de recherche de faire remonter auprès de la direction de tous les labos tout ce que l'on peut donner en tant que produit de recherche qui peut servir aux labos.
D'accord.
Qui eux travaillent sur le coronavirus. Donc, depuis quelques jours, il y a un mouvement à la fois français et international d'actes de solidarité, aussi bien concrètement en termes de produits que en termes de partage.
De cellules grises.
Et exactement.
En termes de justement préparation, c'est un vaccin au bout du compte ce qu'on essaye de faire. En général, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Comment on peut réussir à faire quelque chose qui puisse juguler ce problème-là?
Alors, on sait comment arrêter le virus. C'est simple, hein. Il faut être totalement confinés tous. Diminuer au maximum le nombre de liens. On sait que ça marche. Ça a marché en Chine, ça marche en Corée. Ça marche depuis la nuit des temps sur les infections. Donc ça, on sait que c'est comme ça qu'il faut faire.
Ouais.
Donc la réponse, on l'a. Après, c'est la mise en œuvre qui est compliquée. Elle est compliquée parce que il y a les sociétés qui sont ce qu'elles sont.
Ouais.
On passe notre temps à être proches les uns des autres. Et puis il y a le virus. Et il se trouve que le virus, lui, il est stable pendant plusieurs heures sur des surfaces. Par exemple, sur des plastiques, sur du métal. Tu vois, une barre de métal dans le métro.
D'accord.
Donc, la contamination, elle se passe simplement par le contact d'une main de quelqu'un qui est contaminé, qui dépose un virus sur une barre de métal d'un métro, tu poses ta main dessus, tu le récupères, tu mets ta main pas loin de ta bouche, pas loin de tes yeux, et le virus rentre comme ça.
D'accord.
Sachant que c'est plusieurs heures de stabilité sur des supports solides, et donc
ouais, c'est énorme.
La contamination, elle est très très rapide. On a aussi les enfants ou les jeunes qui voient beaucoup plus de gens que les vieux, que nous, en clair. Alors eux, comme ils voient beaucoup plus de gens et qu'ils sont très tactiles, ben, ils sont vecteurs beaucoup plus importants que les autres.
D'accord.
Mais ils ne sont pas malades, par contre.
Ouais.
Ça, c'est quand même au moins une bonne nouvelle.
Ouais.
Donc la réponse à ta question, de savoir comment on fait, ben, c'est avant tout confine.
Ouais.
30 secondes, je réponds à un autre.
Oui, vas-y.
Oui, Alain. Super. Merci, je suis au téléphone, je te reprendrai tout à l'heure après. Merci encore, ciao. Alors concrètement, ça c'est un voisin qui vient de me déposer à manger.
Oh, adorable.
Donc ça c'est une première chose, c'est comment on fait aujourd'hui. Ça c'est la chose qu'il faut faire. Après pour le vaccin, il y aura un vaccin. Mais il n'y aura pas un vaccin tout de suite. Il n'y aura pas un vaccin avant plusieurs mois.
D'accord.
Donc il n'y aura pas un vaccin, le temps du vaccin et le temps de l'épidémie sont décalés.
Ouais,
okay. L'épidémie de cette année. Il y a d'autres pistes qui sont évoquées par les chercheurs chinois, qui sont en particulier les pistes de la chloroquine, c'est-à-dire ce qu'on utilise contre le palu. Il semble qu'il y ait des pistes intéressantes de... Alors, je ne sais pas encore si c'est des soins... Je ne sais pas, en tout cas, si c'est du soin ou si c'est de la prévention. Mais il y a des pistes qui pourraient arriver avant un vaccin.
D'accord.
Voilà. Mais ça reste... je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il ne faut pas compter là-dessus. Dans l'épidémie actuelle. Il ne faut pas compter sur... les gens bossent, et vraiment ils bossent, mais avant tout le confinement.
Voilà, donc le mot d'ordre, en fait, il est assez simple, c'est que le temps qu'on trouve un vaccin, la crise se sera déjà bien développée.
Ouais.
Donc voilà, il faut faire attention.
Et deux petites remarques pour supporter ce qu'il vient de dire. Le truc à la quinine en Belgique, ils l'utilisent aussi, et je crois qu'à Marseille, donc de plus en plus d'hôpitaux l'utilisent, ça soigne. Mais bon, c'est pas prouvé, mais c'est ce qui a l'air d'être...
Empiriquement, pour l'instant, c'est ce qui se passe.
Il y a des preuves empiriques, mais ils n'ont pas le temps de faire un vrai... Enfin, ils savent que c'est pas toxique, pas toxique, a priori, mais bon, donc... Et alors, l'autre point, c'est qu'il parlait du facteur de contagion. Et donc, pour l'instant, les gens pensent que pour le coronavirus, il est d'à peu près 3. Et en fait...
3, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire que chaque personne va infecter 3 personnes en moyenne.
Okay.
Ce qui, en fait, n'est pas énorme. Et donc par exemple pour le measles c'est 12 à 18. Donc, d'où l'importance du vaccin, c'est un des messages. Mais donc, trois, ça veut dire qu'avec des bonnes mesures de distance sociale et de confinement, on peut arriver à vraiment bloquer l'épidémie. Il faut vraiment que les gens fassent attention à ne pas sortir quand ils toussent. Il a avalé de travers.
C'est pas le virus, ça me gratte la gorge. Je vais chercher un verre d'eau.
Okay. Arrêtez. Enfin. 3, c'est pas si grand. Enfin, ouais, c'est grand, mais c'est pas le plus grand des virus.
Ce que ça veut dire, à savoir, il faut vraiment faire marcher la distance.
Oui,
Et en Nouvelle-Zélande, ils mettent quand même ça en place. Moi, je sais qu'au boulot, on vient de me dire aujourd'hui que j'allais travailler de la maison.
Voilà, c'est ça. Il y a un très, très bon article dans le spin-off par Suzy Walls avec Toby Manier qui a fait un dessin. Et il y a un petit graphique tout simple avec un arbre. Donc, une personne, ça split en trois. Et puis, ils enlèvent une personne qui reste à la maison et ça change déjà beaucoup.
Oui. Donc c'est vraiment...
Ne sortez pas si vous n'avez pas besoin de sortir.
Ne faites pas comme les Français, parce que vous allez voir au cours des témoignages, en fait, le gros problème en France, puis bon, on ne va pas parler d'Italie parce que c'est encore...
Mais
encore
c'est
autre
pas...
chose, c'est qu'ils n'ont pas... Il y a encore des gens... Quelqu'un me racontait, il en parle dans une interview, il y a encore des gens qui s'amusent à faire des pique-niques.
Oui.
Bon,
par exemple, une des raisons pour laquelle... En Chine, ça a marché, c'est qu'en fait, ils avaient, par famille, une seule personne avait le droit de sortir tous les trois jours pour faire les courses.
Oui.
Personne d'autre ne sortait. Oui. Donc, on n'en est pas encore là en Nouvelle-Zélande, mais en France, il reste. Enfin, en France et en Belgique.
En France, c'est qu'ils ont été obligés de mettre l'armée dans la rue pour que les gens oublient.
Oui, ils l'ont fait en Chine aussi.
Oui, mais en Chine, de toute façon, t'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Donc, au moins, c'est l'avantage des dictatures dans ces cas-là, au moins tout le monde obéit. Quoi.
Mais par exemple, la Corée et le Japon. Où ils respectent les règles, en fait, ils s'en sortent relativement bien.
Oui, quoique le Japon, les chiffres ne sont pas annoncés non plus, ils ne font pas de tests, donc forcément, ils ne vont pas...
Mais la Corée fait des tests.
Oui. La Corée, ils ont arrêté les gens au feu pour faire des tests, il paraît.
À Taïwan...
Mais il y a eu ça ici aussi, j'ai lu dans le journal...
Je ne sais pas
si c'était à l'entrée des hôpitaux...
Ils peuvent en faire que 1000 à 1500 par jour, donc ça doit réduire.
Non, mais maintenant, ils ont... Par exemple, la White Cross de St. Luke's, quand tu passes à côté, il est mis COVID. Testing, tu peux aller te faire tester.
Alors on va écouter maintenant un autre témoignage, celui de Ludovic qui est médecin urgentiste. Ils n'ont pas encore, vous allez voir, ils n'ont encore rien, mais ils attendent en fait.
Il est dans quelle partie de la France ? À Paris ?
Non, il est dans le Gironde.
Ah oui, Bordeaux, c'est une des régions les moins touchées apparemment.
On l'écoute.
J'exerce dans l'hôpital de Blaye en Gironde.
On m'a dit qu'aux urgences, il n'y avait personne, ce qui semble un petit peu un paradoxe au bout du compte.
En fait, la population écoute les informations et le SAMU qui régule les appels médicaux joue son rôle de faire rester les gens le plus possible chez eux et de faire appel à leur médecin traitant pour éviter d'engorger les urgences, pour anticiper les afflux très probables à venir de patients.
L'hôpital là où t'es, par exemple, il n'est pas débordé par les cas encore, mais ça risque d'arriver, c'est ça que vous pensez ?
C'est ce qu'on attend au niveau national et puis... Compte tenu de ce qui s'est passé à Mulhouse, où il y a eu un afflux massif de victimes et où ils ont été débordés, il y a de fortes chances que ça s'étende sur tout l'ensemble du territoire. Pour l'instant, la vague n'est pas arrivée.
Et aussi, j'imagine que pour la France, voir l'Italie, la Chine, ça peut aider aussi.
Oui, ça nous permet de nous préparer, pas au mieux, parce qu'on va voir, comment ça va se passer, mais d'anticiper, de former les équipes, de faire des parcours de soins dans les hôpitaux pour que les patients soient vraiment séparés des autres patients, de dédier des services, voire des hôpitaux pour l'accueil des patients positifs. Donc, c'est sûr qu'en ayant un peu d'avance, là, on a une semaine par rapport aux Italiens, ça permet quand même de mettre en place des choses. Je ne sais pas si ça suffira, mais là, on est dans la... On est avant le tsunami, quand l'eau s'est un peu retirée et qu'on attend la vague, et tout le monde est un peu dans cette attente-là. C'est un peu étonnant comme ambiance. Quoi.
Voilà, donc, à part l'Est, donc tu veux nous parler rapidement, la France, pour l'instant, est en attente. C'est-à-dire que on voit bien dans les médias, les chiffres montent.
Et ça dépend très fort des régions. En fait.
Voilà, et au niveau hospitalier, effectivement, les gens sont prêts, ne sachant pas jusqu'à quel point ils sont prêts, puisqu'ils ne connaissent pas encore l'ampleur des dégâts, surtout quand on voit ce qui se passe en Italie.
En fait, moi, je me tiens un peu au courant via ma sœur qui travaille dans un hôpital. Elle est pas médecin urgentiste, elle est neuropsy. Mais donc, en fait, déjà le lundi avant le lockdown, ils avaient commencé à bien vider les listes qu'ils font dans tous les pays. Ils le font sans doute ici, enfin, ils le font ici aussi. Ils arrêtent toutes les opérations non importantes, non urgentes et qui mettent pas la vie en danger pour vider des lits. Et alors, Ils ont décidé quels hôpitaux faisaient, seraient en charge du coronavirus et quels hôpitaux resteraient sains, entre guillemets. Et donc, ils font des chemins séparés entre les deux types de patients. Et donc, par contre, dans l'Est, donc, ma sœur, elle est à Besançon, donc c'est pas très, très loin de l'Alsace. Et eux, ils sont pas très loin de l'épicentre entre d'un des épicentres français. Et donc là, ce week-end, elle me disait que vendredi, elle avait aidé à déménager. Donc parce que c'est ça qu'ils font aussi maintenant, c'est que donc elle déménage. Et donc ils ont ouvert un quatrième service pour qu'il y ait aucun contact entre les deux patients. Et un truc que la France fait aussi apparemment qui est pas mal, c'est que en fait, les médecins qui sont réquisitionnés pour travailler, soit ils travaillent, soit ils sont en congé, mais vraiment confinés pour les garder en bonne santé. Donc ils travaillent de longues journées, enfin en tout cas c'est le cas de ma sœur, moins de jours, et quand ils travaillent pas, on leur demande
de rencontrer personne.
Voilà, parce que en fait ils veulent les garder en bonne santé le plus longtemps possible. Quoi.
Donc voilà, ben on espère que la France va pas se transformer en Italie, parce que c'est vrai que là c'est quand même la catastrophe.
Pour l'instant, enfin d'après ce qu'on entend et d'après ils sont encore en dessous des.
Oui, c'est pas encore la catastrophe.
Ils sont
partout,
pas, ouais. Non, ils sont pas.
Mais
encore.
ils attendent parce qu'ils savent que mathématiquement, en fait, ouais. C'est ce qui m'arrive.
Ma sœur avait l'air de dire que, d'après ce qu'elle avait entendu, j'ai pas vérifié l'info. Mais ce serait d'ici une dizaine de jours.
Donc on va voir, et je crois qu'ils sont tous un peu dans l'attente, en espérant justement que certains réagissent un peu plus intelligemment.
Ouais, et c'est la même chose en Belgique. J'ai parlé des infirmières en Belgique, c'est la même chose.
En France, en Belgique, il y a pas de confinement encore.
Si.
Ah, ça y est.
On a confiné en même temps que la France, mais avec beaucoup moins de cas. Donc en fait, enfin en Belgique, ça a été fait plus tôt
oui, voilà.
et on n'a pas fait des élections non plus.
D'accord. Ouais.
Ça a été fait plus tôt, mais quand même avec 4 fois le nombre de cas qu'en Chine, quoi.
Ouais.
Pour le démarrage du confinement.
Trois fois.
Enfin, dans les 1000, quoi. Que la
dans
Chine,
les 1000.
Ils ont fait leur confinement à 400. Quoi.
Voilà.
Bon, on va faire un petit tour musical en Italie. Une pensée pour nos amis italiens qui sont dans une belle mouise.
Faire une virée à deux. Sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu. Jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, Catalina, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso. Martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri, voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et boire un verre et tourner un mot trop beau. Du coup, Paris, quand Paris est à l'eau.
Hey, hey,
Voilà ce qu'on peut se permettre de faire quand on a une radio que personne n'écoute. Hein,
ah oui, alors pour nous prouver que personne nous écoute, merci de ne pas nous appeler au 815-81-00. Merci.
Voilà.
Si, c'est comme Sodome et Gomorre, hein, s'il y a un auditeur qui nous appelle, d'accord. Donc si vous êtes cette personne, appelez. 815-81-00.
Je savais pas que les scientifiques avaient des références bibliques. Alors, on va
c'est
maintenant...
la science et la religion,
oui,
c'est très
oui,
proche.
Ouais. Donc, on va maintenant écouter... j'ai appelé ma sœur et elle, elle est aussi à Bordeaux. Et donc, pour nous raconter un peu qu'est-ce que c'est que la vie, ils viennent juste de rentrer en confinement, en fait. Hein. Ça fait à peine une semaine. Certains sont en télétravail depuis une semaine de plus, mais c'est quand même quelque chose d'assez récent. Oui. Donc en fait,
jusqu'ici tu vas bien quoi.
Ben surtout, c'est une question de se mettre au diapason, s'organiser, etc. Donc on est plutôt dans cette phase là en ce moment. Donc on écoute comment ça se passe à Bordeaux.
Bien sûr, on est là pour parler du confinement. Et donc toi, Doud, t'es à Bordeaux. Comment ça se passe à Bordeaux? Il y a beaucoup de monde?
Alors non, les villes et les rues sont complètement vides. Alors au début, le premier jour de confinement, c'était tout à fait vide, comme un dimanche matin. Le deuxième, identique. Le troisième, on commence à avoir un petit peu de monde. Le quatrième, un petit peu plus chaque fois. Voilà, donc on a du mal à se tenir aux règles.
Tu peux nous expliquer ce que c'est que le papier, là? Il y a une espèce d'attestation qu'il faut emmener avec soi, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'on sort de chez soi, on doit avoir un papier qui indique la raison de notre sortie. Donc, il y a quatre raisons. Un rendez-vous médical, des courses alimentaires de première nécessité, pour venir en aide à une personne fragile et,
est-ce qu'il y a
et
le sport?
Pour faire du sport. Ouais. Oui, il y a le sport. Ouais. Par des grandes surfaces sont encore ouvertes. Les magasins bio, les magasins bio sont ouverts. Les boulangeries, la plupart des boulangeries sont ouvertes encore. Mais par contre, la poste est fermée, les tabacs sont fermés.
Ah, surtout à Bordeaux, est-ce que les magasins de vin sont fermés?
Alors justement, il y a une petite option pour les magasins de vin. Parce que tous les restos sont fermés, mais tous les bars aussi. Mais par contre, les magasins de vin, de spiritueux, restaient ouverts. Mais a priori, ça n'a pas été suivi, parce que j'en ai vu aucun d'ouvert encore. Là.
Est-ce que dans les supermarchés, les vendeurs, les caissières, tout ça, ont des masques?
Alors oui, de plus en plus. De plus en plus, pas tous, mais de plus en plus, et même les gens, très peu portaient des masques jusqu'à il y a deux jours à peu près. Et oui, c'est ça, à peu près depuis deux jours, les gens commencent à faire attention, même dans la rue, les gens portent des masques, etc.
D'accord. Alors sinon, comment ça se passe, ça s'organise, la vie en confinement à la maison? Comment vous faites ça, vous?
Eh bien, c'est compliqué parce qu'au départ, ça ressemble à des vacances. Les enfants appellent ça des corona-vacances. Donc c'est un petit peu différent parce que du coup, il y a l'école à la maison. Alors ça dépend, il y a l'école publique qui apparemment, certaines écoles publiques ont un petit suivi pédagogique mais pas hyper hyper consistant. Et par contre, toutes les écoles privées se sont organisées pour que les enfants aient les cours pour chaque jour d'école. C'est-à-dire que s'il y a 6 heures de cours par le lundi par exemple, on va avoir les 6 profs qui vont nous envoyer les cours, plus des exercices, plus les devoirs à faire chaque jour.
D'accord, et donc pour ton fils, pour Zachary, comment ça se passe? Il arrive à s'y tenir?
Ben en fait moi je l'aide beaucoup parce que, alors déjà... c'est vrai que l'autonomie, on n'y a pas trop appris dans les devoirs encore. Et puis, il ne s'agit pas uniquement de faire des devoirs sur des leçons qui ont été apprises auparavant, mais il faut leur expliquer les cours, les nouveaux cours. Donc, en fait, je passe ma journée à faire mes devoirs, enfin, à faire les cours avec lui.
Oui, d'accord. Donc, tu fais tes devoirs aussi, quoi.
Ouais, ouais. S'il n'y a pas un parent derrière, tout ça, c'est compliqué, ouais. L'école crée des réseaux pour que les enfants puissent communiquer entre eux.
Ton autre fille, elle doit passer le bac cette année. Comment ça va se passer pour ça?
Ouais. Donc pour l'instant, tous les examens de fin d'année sont maintenus, mais rien n'est moins sûr. Ou alors ils vont faire comme ce qui s'est passé il y a deux ans pendant les grèves de fac, de lycée, etc. Où il y avait ils ont passé leurs examens par internet.
D'accord. Ok.
Voilà. Donc comme en plus là tout s'organise via les réseaux sociaux. Il n'est pas improbable que dans trois mois, ils soient prêts à faire passer des examens par Internet.
Et en termes d'anxiété généralisée, est-ce que les gens flippent en France?
Ouais, clairement. Au début, on rigolait, on faisait des blagues, on faisait un peu les punks en sortant alors que c'était déjà interdit. Et puis, on se rend compte qu'en fait, ça a des conséquences hyper graves. Ça peut avoir des conséquences vraiment importantes à la fin, c'est-à-dire que moins on est confiné, plus on prend le risque que l'épidémie touche un maximum de gens et du coup qu'il y ait finalement des gens qui risquent de mourir par notre comportement. Et du coup, ça veut dire qu'on a une sacrée responsabilité dans cette affaire, quoi. Donc on est anxieux parce qu'on est un peu enfermé. Enfin, pas un peu, on est enfermé. Et on est anxieux parce que si on se laisse aller à sortir parce qu'on se dit qu'il fait très beau, c'est le printemps là qui arrive chez nous. Si on se laisse aller à avoir un peu de plaisir, etc., à sortir, à se balader ou même d'aller voir quelqu'un, même rapidement et en lui parlant à 2 mètres, bah, on sait que ça peut avoir des conséquences sur d'autres personnes et qu'à la fin, en fait, aujourd'hui, ce qui nous angoisse tous, c'est qu'on sait que au niveau médical, on n'a pas ce qu'il faut. On n'aura pas ce qu'il faut pour assurer toutes les urgences médicales respiratoires. Déjà depuis 15 jours, 3 semaines, dans l'est de la France par exemple, où l'épidémie est la plus développée, ils font des choix médicaux, c'est-à-dire qu'une personne qui est un peu fragile, ils ne la réanimeront pas et ils privilégieront quelqu'un qui est plus jeune ou qui a plus de chance. Et c'est officiel, hein. Pour le coup, le gouvernement est super transparent là-dessus.
Est-ce qu'il y a le spectre de l'Italie aussi à côté qui fait encore plus peur, pour le coup?
Oui, exactement. Et puis en plus, ils ont toujours le même nombre. Alors ça se développe un peu moins, mais ils sont toujours à un stade très très élevé de gens contaminés, de gens morts par Covid-19. Ouais. Donc c'est pas très rassurant. Ouais.
Voilà. Ouais. Et puis, oui, tu voulais dire quoi?
Juste pour le nombre de lits. Il y a des pays qui sont mieux équipés que d'autres, mais aucun pays n'a assez de lits. Parce que c'est du genre, il y a besoin de 5 lits pour 100 personnes à peu près. Et la plupart des pays, c'est plutôt un lit pour 10 000 ou 5 lits. Ouais. 100 000, parce qu'en temps normal, on ne s'attend pas non plus.
C'est pas quelque chose qui arrive fréquemment, c'est vrai.
Non, et que dans la plupart des pays, ils n'arrivent jamais à saturation.
Ce qui est assez amusant, je ne sais pas si vous avez vu passer ce TED Talk de Bill Gates qui parlait des épidémies. C'est un truc qu'il a fait, un TED Talk qu'il a donné en 2015, où il dit qu'on n'est pas préparé pour les épidémies, qu'on est préparé pour la guerre, en fait, pour des trucs de guerre, qu'on peut réagir très très vite, qu'en revanche, dans le cas d'une épidémie, on ne peut pas réagir vite. Et c'est assez marrant parce que cette discussion. Internet, parce que justement, c'est carrément d'actualité. Tout ce qu'il dit, tu te dis, mon Dieu, oui, il avait raison, quoi. Ouais. On est effectivement, donc ça veut dire que même si, effectivement, le système hospitalier est pas fait pour recevoir ça, puisque c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment, c'est moins qu'on puisse dire, il devrait y avoir quand même une possibilité de déploiement, on le fait dans l'armée pour ce genre de situation.
Mais c'est justement ce qui se passe, c'est pour ça qu'ils demandent aux gens, et notamment en Nouvelle-Zélande, de ralentir parce que, ce qu'on fait en France, en Belgique et ce qu'on fait en Nouvelle-Zélande, c'est que ils ouvrent, donc ils ont doublé leur capacité de soins intensifs en France, en Belgique, parce que ils ont racheté des respirateurs, ils ont pris des trucs de l'armée parce que l'armée a dû.
Vraiment de se tourner vers l'armée parce que c'est là qu'on met l'argent en général.
Parce que justement, l'armée, c'est aussi eux qui vont tout ce qui est déploiement d'urgence en cas de catastrophe et tout ça. Donc il y a du matériel, mais il n'est pas toujours dans les hôpitaux. Et donc c'était ça, c'est gagner du temps pour se préparer mieux, préparer plus de lits. C'est ça qu'ils font. D'accord. Donc, mais bon, il y a quand même. Même s'il y a beaucoup de, il y a des gens qui préparent plus de respirateurs et que notamment les hôpitaux belges demandent des dons pour acheter des respirateurs et il n'y en aura pas une quantité limitée non plus. Ouais.
On va maintenant écouter, j'ai demandé à mon neveu, lui qui a 11 ans, et puis on écoutera ensuite mes tantes qui ont 80 ans, donc on est aux deux extrêmes.
Donc ton neveu, c'est celui qui fait l'enseignement à domicile?
Voilà, c'est lui.
Mon neveu aussi, il appelle ça les coronavacances.
Voilà, donc je crois qu'il appelle plus ça les coronavacances depuis qu'il travaille. on va écouter son témoignage.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, le confinement pour un garçon de 11 ans? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment ça se passe?
Je fais surtout mes devoirs. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de devoirs. Déjà, il y a les cours qu'on doit faire. Et en plus, il y a les devoirs de la semaine.
Ouais.
Je fais du sport. On a fait un peu de course avec ma soeur. Sinon, on fait des abdos, des pompes et du gainage.
Ah, donc, vous allez ressortir super musclé du confinement?
On espère.
Et sinon, avec tes copains, est-ce que tu gardes contact avec eux un peu?
Oui, on parle souvent sur un groupe WhatsApp ou Discord. C'est un peu dommage de ne pas les voir, mais...
T'as peur que ça te rende dingue de rester enfermé?
Un peu.
c'est super. Merci beaucoup, Zachary. Au revoir.
Au revoir.
Donc, en parlant un petit peu plus avec lui, il est pas du tout inquiet. C'est marrant, cette génération-là, on leur a dit, c'est bon pour vous, les mecs.
Mais par contre, l'aspect social, c'est les... enfin mon neveu, c'est ça, c'est, et je peux même pas voir Vadim, ouais, son meilleur pote,
oui, oui,
même
oui,
pas lui,
ouais,
non,
donc, ouais, c'est assez compliqué. Alors maintenant on va écouter, j'ai mes deux tantes qui ont toutes les deux 80 ans. Alors il y en a une qui vit ça très bien, l'autre qui vit ça très mal, donc c'est assez intéressant de les écouter. On va commencer par celle qui vit ça plutôt mal, hein.
Dabou, t'es à Paris et t'as fêté tes 80 ans cette année, donc tu fais partie de la population à risque, on va dire.
Oui, c'est ça. Mmh. Oui, oui.
Et alors,
mais je me sens pas trop de cette catégorie, mais faut bien que je me mette ça dans la tête quand même. Hein.
Et surtout, t'es une Parisienne et t'as la bougeotte. Alors ça se passe comment d'être coincée chez toi?
Eh ben, c'est très difficile. Je sais pas très très bien comment je vais y arriver, mais enfin ça fait déjà 5 jours. C'est déjà pas mal, c'est beaucoup pour moi. Bon, ben qu'est-ce que tu veux? J'essaie de m'organiser. Je me fixe des choses à faire dans la journée. Je me dis aujourd'hui je vais faire l'argenterie. Demain je vais trier mes papiers, etc., etc. Ce que je fais pas d'ailleurs. Mais il faut que je sois occupée tout le temps, sinon. Et puis je joue au Scrabble sur mon iPad. Je fais des réussites. Je fais des mots croisés,
ouais,
voilà,
ouais.
Et puis le temps passe, et j'évite de regarder les informations, parce que ça, c'est complètement anxiogène,
ouais.
C'est épouvantable, il nous envoie ça d'une manière épouvantable, alarmiste, on est complètement désespéré quand on regarde le journal,
ouais.
Et en même temps, il faut se tenir au courant,
ouais,
tu
ouais,
vois,
ouais,
c'est très, très, très... très dur, très dur. Et alors, les images qui te montrent les cercueils en Italie, entassés les uns à côté des autres, est-ce que c'est utile de montrer ça? On le sait, c'est pas la peine de le voir.
Mais alors, j'ai parlé avec pas mal de personnes qui me disent qu'à Paris, il y a quand même pas mal de gens qui continuent à sortir comme si de rien n'était. Alors, est-ce qu'ils n'essayent pas d'en faire peur?
Non, pas dans mon quartier. C'est désert dans mon quartier. Non, il y a des quartiers où les gens sont très sérieux. Moi, je vois ici, par exemple, ma voisine du dessus, elle est avec sa fille et son fils, et ils sont confinés, ils ne sortent pas, même pas pour aller chercher une baguette de pain à 200 mètres. Ils ne sortent pas. Ils vont rester comme ça pendant 15 jours et plus, et ils font le vrai, vrai confinement. Tu vois, c'est... Il faut avoir le courage de le faire, mais ils peuvent le faire parce qu'ils sont trois.
Ouais.
Mais quand tu es tout seul, tu es obligé de sortir un petit peu dans la journée, parce que sinon, tu as l'impression que par moment, tu deviens un peu... pas folle, mais enfin,
ouais,
pas score,
ouais.
Tu vois.
Et donc...
non, c'est dur.
Ouais. Donc là, il est minuit, tu me disais, tu rallonges tes nuits pour raccourcir tes jours, c'est ça?
Ah ben là, je vais aller prendre ma douche, je vais faire ma gymnastique. tu sais que j'ai toujours tout fait la nuit, moi. Et mon repassage, je fais la nuit. Alors évidemment, les journées sont longues après. Donc il faut que je me réveille à 10h. Que je prenne mon petit déjeuner, ça décale, et voilà, comme ça j'arrive à passer le temps un petit peu, quoi.
Ouais.
Ah, franchement, pour les gens qui sont seuls chez eux, c'est insupportable.
Ouais,
quand ta famille avec toi, tes enfants, tes petits-enfants, alors heureusement il y a le téléphone, hein.
Ouais.
Je veux dire, celui-là il chauffe. Pas simplement parler par téléphone, on est tous très très angoissés. Alors, quand tu es tout seul, tu te dis, mon Dieu, si j'ai quelque chose, je serais peut-être partie à la campagne, mais je crois que ça aurait été pire, parce que à la campagne, si tu as quelque chose, on t'emmène on ne sait où, et puis tu n'as personne, tu n'as pas ta famille. Oh non, c'est trop dur.
Ouais, ouais.
Il faut que ça s'arrête, ce truc.
Ouais,
bon,
ouais.
Puis toutes ces infirmières qui n'en peuvent plus, c'est ça aussi qui nous fait peur aussi, vois. Les pauvres.
Voilà, donc ça c'est le côté, la tante qui aimerait bien, elle est tout le temps en train de courir, toujours des amis, etc. Donc là effectivement pour elle c'est difficile, elle est comme un lion en cage. Et j'ai mon autre tante qui elle aime la solitude et en fait elle est très heureuse, elle est en Normandie, elle est bien plus heureuse, on va l'écouter.
Oui, Léma, alors toi tu es en Normandie et tu fais partie des personnes qui ont plus de 80 ans, donc c'est une vision particulière, cette histoire de virus.
81,
oui. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es organisée?
Bon, comment ça s'est passé pour moi? Ben, quand j'ai senti que ça devenait très angoissant, cette histoire, j'ai commencé par arrêter mes cours de yoga avec les enfants, puis avec les adultes. Puis je suis allée dans les magasins faire des réserves. que je vois plus personne et je suis chez moi et je vais dans le jardin, je pratique beaucoup la méditation, je suis au calme et je me sens très bien.
Non, je suis contente de vivre cette expérience. Maintenant, je sens bien la souffrance du monde entier. Il y a une énorme clameur de toute la Terre dans une souffrance que personne ne peut exactement mesurer. Ouais. Donc pour moi, c'est absolument pas une épreuve. C'est plus, je pense que il y a des gens qui sont pas privilégiés, qui souffrent sûrement beaucoup de tout ça. Mmh. Voilà.
Voilà, donc
elle est adorable.
Ouais, mais j'ai des tantes qui sont très actives. Hein. C'est vrai que ouais. Je me dis, moi, je veux bien avoir 80 ans comme elles. Elles sont.
C'est marrant.
Elles sont toutes différentes et j'en ai d'autres. Hein. Elles sont toutes différentes et.
Elle donne des cours de yoga
ouais,
quand même.
Ouais, elle est plus souple que moi. Ouais.
Ouais, ouais. Mais moi, j'ai appelé ma grand-mère de 95 ans et qui m'a dit, mais je ne risque rien. C'est que les gens en mauvaise santé.
Oui.
Enfin, elle est quand même confinée parce que la police lui a dit de rien. Oui. Parce qu'elle a peur de la police.
Ah oui, bon, heureusement.
Et, ouais. Et qu'elle habite au 14e et que bon, prendre l'ascenseur pendant 14 étages, elle a un peu peur de la condamnation.
Est-ce qu'on s'écoute une petite musique, Seth?
Ouais, ben on voulait écouter une chanson de The Cure. Hein,
oui, ouais, alors c'est quoi la blague? Parce que bon, comme on rigole bien.
Mais parce que ça tourne sur Facebook, on n'a pas le vaccin, mais ça, c'est The Cure.
Ah, voilà. Donc on écoute The Cure.
Close to me, The Cure.
Sachant qu'il ne faut pas rester trop close to you.
De nous appeler, 815-80-00, notre éditeur, là, il va sentir la pression. Hein.
Oui, toujours personne, mais bon, de toute façon, personne ne nous écoute. Hein,
maintenant, c'est prouvé.
Ouais, voilà, voilà. C'est prouvé.
Et si vous voulez venir
plusieurs fois que tu le prouves, en plus, hein, plusieurs émissions.
Ouais, si vous voulez venir parler à la radio, appelez-nous aussi, hein, oui, on a de la place.
Voilà. Personne ne nous écoute.
Non, oui, c'est vrai. Donc voilà, maintenant, on va écouter mon amie Steph, qui, elle, travaille dans l'événementiel. Si je la trouve, elle est passée où, Steph?
Je suis là, moi.
Non, c'est une autre. Non, je vais vous en mettre une autre parce que je ne la trouve pas pour l'instant. Je vais vous mettre Flo qui travaille dans la muséographie. On écoute tout de suite.
Quoi?
Muséographie, c'est ce que je faisais avant d'arriver ici-bas. Voilà.
Eh bien, moi, je suis à côté de Saint-Denis, sur une île, l'île Saint-Denis, qui est Saint-Denis. Bah, le futur Grand Paris, en fait.
Ouais. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe pour toi, dans quel domaine tu travailles, puisque comment tu vis ça au quotidien?
Alors, nous, on on a été, donc je travaille dans le domaine des musées, puisqu'on propose des audio guides pour les expositions et les musées, voilà. Donc moi, jusqu'à la semaine dernière, on a eu, je dirais, une vie plutôt normale. Je suis même allée jeudi pour le vernissage de l'exposition au musée Jacquemin-André, sur l'exposition Turner. Bon, on vivait voilà, normalement, puis d'un seul coup, bah, on a vu que il fallait pas qu'il y ait plus de 1000 personnes au même endroit, donc le château de Versailles a commencé à prendre des mesures. On avait déjà eu des échanges avec certaines institutions pour les recommandations, puisqu'on a quand même du personnel qui distribue les audioguides et qui est en contact avec le public. Donc on avait déjà pris les mesures pour ceux qui le souhaitaient, de masques, de gants, de gel. À part qu'on était arrivé en pénurie, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel assez rapidement. Et puis pour Versailles et pour tous les musées, faire une barre de 2000 personnes, ça commençait à être compliqué. Et puis à la mi-mars, d'un seul coup, c'est tombé à partir du moment où le président a dit de fermer les écoles, et puis a donc mis la barre à 1000 personnes, puis 100, tous les musées et tous les sites au fur et à mesure ont fermé les uns après les autres. Donc concrètement, ça veut dire que tous les agents d'accueil sont au chômage partiel. Donc pratiquement toute la société est au chômage. Alors tu vois, nous on a eu les gilets jaunes, les grèves, on a perdu beaucoup de sites à faire avec l'incendie de Notre-Dame. Donc on était déjà dans cette démarche-là avant le coronavirus, parce qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de sites à faire. Et en fait, c'est une mesure où l'État aide les entreprises et prend en charge 84%. Du salaire des employés qui sont mis au chômage partiel. D'accord. Alors il semblerait que là, l'État prend en charge totalement 100%. Donc le confinement pour moi, c'est depuis, ça fait 8 jours. Donc là, je suis avec Simon. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de choses à faire à la maison depuis 10 ans. Donc je pense que voilà. Hier, il m'a démonté mon lit quand j'étais au bureau. Il m'a descendu des choses. On va réaménager et on va classer tout ce qu'on n'a pas fait depuis 10 ans. On s'est dit que là, si on n'était pas capable de le faire, alors qu'on risque d'être une semaine confinée, ce serait vraiment, on était vraiment nuls, quoi. Voilà. Voilà, à ce projet.
Et qu'est-ce que tu dirais, parce que nous, donc en Nouvelle-Zélande, c'est en train de décoller. Et qu'est-ce que tu comme conseil de choses à éviter pour les gens, pour les francophones qui écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Eh ben, je leur dirais de vraiment prendre au sérieux ces mesures de confinement le plus vite possible. Parce qu'en fait, je pense que plus on est confiné, plus on respecte cela au moins pendant 15 jours, ça veut dire que le virus ne va pas se propager partout. Et ça, nous, on n'en avait pas conscience. C'est vrai qu'on se disait, bon, de toute façon, petite grippe, puis tous les ans, la grippe fait des morts, donc pourquoi ils nous en font tout un pataquès? Comme d'habitude, les Français ont été très sceptiques, mais visiblement, on n'est pas les seuls. Après, on a un peuple de Méditerranéens. Moi, j'ai une amie qui me dit qu'en Grèce, ils ont du mal aussi à se discipliner. Et en Italie, on voit bien ce qui se passe et ils ont aussi beaucoup de mal à se discipliner. Donc c'est vrai que c'est compliqué de prendre la mesure hein, quand on n'y est pas confronté. Moi j'avoue que quand j'ai appris lundi dernier que j'avais un ami qui était en coma, d'un seul coup, là ça prenait une réalité que jusqu'à présent, voilà, on savait qu'il y avait quelque chose, mais de toute façon c'est comme tout le reste, on pense que ça va pas venir vers nous, ça va pas nous toucher. Et là ça se rapproche.
Ouais. Et cet ami, il a quel âge ?
Il a 59 ans. Comme il est directeur, si tu veux, d'un centre de jour avec des enfants, je pense qu'il a été particulièrement exposé. Il semblerait que les enfants peuvent être porteurs sans déclarer le... Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, pour les enfants, ouais.
Pour les enfants, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, pour les adultes, si tu es en contact avec des enfants porteurs, tu peux pas le savoir.
Bon, merci beaucoup.
Portez-vous bien et puis essayez, oui. Puisque vous avez peu de cas, confinez-vous rapidement.
Voilà, donc c'est un peu le mot d'ordre hein, et ça revient souvent et je crois que c'est une réalité et qu'il faut qu'on en prenne de la graine pour ici,
les Italiens l'avaient dit
en Nouvelle-Zélande. Oui. Et puis on va partir avec chez Steph qui elle travaille dans l'événementiel. C'est un autre style, vous allez voir.
Alors je me présente. Alors je suis Stéphanie, j'ai 47 ans, je vis en Vendée à Chavannes-en-Payet. Je suis une maman solo dans une grande maison au milieu des champs. Et je travaille en événementiel. On a été les premiers touchés, comme dirait l'autre. Donc, depuis 3 semaines, tous les jours, on refait les plannings, on fait des croix partout, de tous les trucs qui s'annulent. Je crois que pour le coup, là, Blondinette, je crois qu'on a été les premiers touchés en fait en événementiel, parce que c'est les premiers trucs qui ont été faits, c'est d'annuler les événements. Alors, au début, c'était 5000 personnes, moins de 5000 personnes jusqu'à mi-avril. Après, ils nous ont décrété un truc, moins de 5000 personnes mi-mai. Après, ils sont revenus mi-avril. Après, c'était moins de 1000 personnes. Puis bon, maintenant, c'est moins de 5, peut-on autant dire que voilà. Donc, tous les événements ont été annulés de mars. Après, tous ceux d'avril. Là, c'est tout mai. Et ça y est, maintenant, depuis une semaine, on est parti sur tous les mois de juin. Donc là, depuis mardi, on est tous en chômage technique. Enfin, forçage, on nous force à prendre nos RTT, nos CP.
C'est légal ça de faire ça?
Non, c'est pas légal. Non, c'est pas légal, mais le problème c'est que le groupe, un groupe qui fait 1,2 milliard et qui a déjà perdu plus de 100 millions d'euros en 3 semaines, je pense que voilà, quoi, ils sont un peu en panique. Donc on nous a imposé, mais ils sont en train de revenir dessus. Donc là, on est en chômage partiel depuis le 18, donc ça doit faire 2-3 jours qu'on est en chômage partiel. Alors normalement on n'est pas censé travailler, mais on travaille de chez nous. Parce que les clients sont en panique, donc il faut qu'on mette au point comment on recule leur événement et tout, donc ce qui est super galère et qui est un enfer, c'est que déjà on est en train de se dire qu'on aura zéro vacances cet été et on ira tout droit, enfin on est en train de nous dire ça, qu'on ira tout droit jusqu'à Noël après. Et la catastrophe qui est en train de se produire, c'est que tous les organisateurs, que ce soit d'événements ou de salons, reportent tout sur le mois de septembre. Donc on a beau leur dire qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'aura pas assez de matériel et d'humains, ils veulent tous sauver leur peau, donc ils mettent tous les événements sur septembre, ce qui va être totalement impossible à faire. Donc voilà. Et on a beau leur dire, on a beau en parler à notre direction, mais personne n'écoute.
Ouais.
Donc ça va être très très marrant. Ouais. On va couper nos chaises en 4, nos cloisons en 4, notre moquette en 4. Voilà.
Et puis même dans les lieux d'exposition, il faut la place aussi, j'imagine. Hein.
Ouais, mais ils arrivent à remplir en fait. Ils cumulent les salons. Les événements typiquement, je bosse sur les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'était là au mois de juin. Ils ont reculé fin septembre. Donc, c'est un site privé, ça, eux. Donc, ils n'avaient pas d'événement à ce moment-là. Donc, ils se mettent sur septembre.
Mmh.
Et Roland-Garros, pareil. Tous les gros événements, en fait. Roland-Garros, c'était au mois de juin. Ils ont dépassé le 20 septembre. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Donc, voilà. Donc, on se dit que quand on va reprendre pendant 8 mois sans congé et pas de matériel. Ça va être très marrant.
Oui, puis en travaillant des longues journées aussi, parce que ça reste que ça représente énormément de boulot aussi.
Bon, alors je faisais déjà 13 heures par jour, 14 heures, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais...
et vous ferez 16 heures, madame.
Oh bah oui, et puis sans variable, sans prime, parce qu'on n'a plus de sous. Hein. Ah d'accord, ouais. Okay, bon, écoutez, et on vous donne l'argent à la fin du mois, ou comment ça se passe?
Non,
c'est que... Ouais. C'est clairement la merde.
Ouais. Ouais. Et sinon, le confinement avec des enfants, ça donne quoi?
Eh ben, confinement avec Augustin, puis je te dis, j'ai rapatrié Lola, c'est ma pote Lola. Donc, du coup, on est à 4. Il y a Lola, son titi qui a 3 ans, qui parle français, espagnol, je crois. Enfin, je n'ai pas très bien compris. et puis Augustin, mais bon, après, on est en semi-confinement, t'es déjà venu à la maison, quoi. C'est au milieu de rien. Et du coup, tu sais, il y a les petits voisins à côté qu'on a, Augustin, qui sont en classe ensemble et c'est pas possible qu'ils soient pas ensemble. Donc, du coup, on est en confinement de famille, on va dire, les voisins et nous, quoi. En sachant que moi, j'ai été en contact, là, je suis au 14e jour, donc normalement, après, j'ai la boîte qui part un peu, mais je pense que c'est plus la clope qu'autre chose. Ah non, parce que j'ai autant de boulot, je fume 3 clopes par jour, mais là, en confinement, j'en fume un peu plus, en fait. Et je bois encore plus à l'heure qu'habitude aussi. Bon, bref. Je vais peut-être commencer dès 10 heures du mat demain, je vais voir, j'ai réfléchi. Donc du coup, il y a deux familles, je peux dire, on est la famille à côté de Pinot. Donc les momies, on travaille, on fait l'école le matin. Enfin, c'était compliqué la semaine dernière, je ne pouvais pas, quoi, la galère, je bossais toute la journée de 8h du mat à 7h du soir sur mon ordi en conf-call toute la journée. Donc je t'avoue que les devoirs à la maison, en CE2 ça va, il va pas louper sa vie pour une semaine, mais... Donc on va reprendre ça un peu plus précisément demain, là. Mais non, écoute,
c'est chouette quand on est à la baraque, j'ai plein de jardin à faire. Bon, moi, je vais être en confinement 6 mois, j'ai encore du taf. Hein, donc, après, voilà, après, je suis allé faire des courses tout à l'heure. Il n'y a pas grand monde qui est. Enfin, c'est la campagne, hein, les gens, ils ne respectent pas super bien. Enfin, il y a des gens qui respectent. Mais ce matin, je suis allé faire des courses, c'était plus gila. Hein, c'est plus le confinement enfant. Ouais. Toute la journée avec ton môme. Et ouf, après, Augustin, maintenant, c'est chouette, il a 8 ans, il s'occupe quand même pas mal tout seul. Mais c'est ça qui risque d'être un peu longué au bout d'un moment. Quoi.
Ouais. Et lui, il voit ça comment? Comme des vacances ou
Oui, pour l'instant, oui, parce que je te dis, j'ai pas eu le temps. On a fait école à la maison, mais j'ai dû faire une heure, aller grand maximum 2 heures par jour, parce que j'avais pas le temps, moi je bossais trop. Donc il est toute la journée avec les potes dehors à faire. Par chance, il pleut depuis 6 mois, et là il a fait hyper beau cette semaine avec un t-shirt. Donc du coup, ils font ils ont des pistolets à eau, ils jouent au trampoline toute la journée, ils jouent au ballon, ils fabriquent des cabanes, donc.
Ouais, ils sont quand même vachement plus privilégiés qu'une famille coincée dans un tout petit appart dans une ville.
Ah ben, je pense que t'auras plus de succès de confinement à Paris, effectivement. Et ce qui les fait marrer, justement, on s'envoie tous des vidéos pourries, là. Ce qui fait marrer Augustin, c'est des vidéos des gens qui pètent les plombs, qui font des trucs marrants, qui sont enfermés dans des appartements. Ouais. Et c'est vrai qu'ici, enfin, moi je pense qu'à terme, ce qui va être chiant, parce que là, ils sont en train d'annoncer fin avril, moi ce qui va être chiant, c'est voilà, toute la journée, même si j'adore foncièrement très fort mon fils, c'est un peu, enfin c'est comme les vacances quoi, tu vois, au bout d'un moment, ton môme il retourne à l'école pour avoir du temps pour toi.
Ouais,
et là.
Voilà. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas prévenue.
Blandine était en train de se remarier une deuxième fois.
Oui, je me remarie une deuxième fois. Ouais. On passe rapidement parce que j'ai peur qu'on puisse pas tout écouter. On va écouter Lopoli, lui, il a 20 ans, donc c'est assez intéressant d'avoir sa vision des choses. Il parlait de la campagne où les gens étaient justement, lui, en Auvergne, étaient plus responsables justement, vous allez voir.
Salut Lopoli, alors est-ce que tu peux me dire où tu es et puis comment ça se passe pour toi le confinement?
Bonjour Blandine, alors je suis actuellement en Auvergne et donc je suis confiné en Auvergne depuis le début du confinement en France chez mes grands-parents. Donc en fait j'habite à Paris et du coup je suis confiné en Auvergne dans la maison de ma grand-mère avec ma sœur, le copain de ma sœur et mon oncle.
Vous n'aviez pas peur de ramener des microbes à vos grands-parents justement ?
Alors en fait là c'était vraiment une situation exceptionnelle pour le coup. À la base on voulait pas du tout venir voir mes grands-parents, sauf que du coup il y a mon grand-père qui est décédé, donc on a dû venir pour les obsèques de mon papy. Et sauf qu'à la base on voulait vraiment pas venir voir nos grands-mères, donc là il y a notre grand-mère qui vit dans la ville et on va strictement pas la voir, on va juste en bas de son balcon lui parler quoi. Parce qu'on veut vraiment éviter tout contact pour éviter de potentiellement la contaminer si nous on est porteurs, et même si on est porteur, on n'est pas censé le savoir. Donc c'est ça le risque. Et du coup, on essaie de faire super attention là-dessus, quoi.
D'accord. Oui, donc c'est des conditions un peu particulières pour vous, parce que vous avez un deuil en même temps, ça,
exactement,
à gérer. J'ai beaucoup entendu parler de que les jeunes, les gens de ta génération, les gens qui ont une vingtaine d'années, continuaient à sortir. Est-ce que tu as ça autour de toi, chez tes copains, tout ça?
Alors, me concernant, moi, mes copains, je sais que ceux que j'ai au téléphone, ils évitent au maximum. Donc ceux qui sont à Paris, notamment, ils évitent au maximum toutes les sorties. Hein. Donc c'est-à-dire que moi j'ai eu des échos par contre, mais dans mes proches, mes amis proches, eux ils restent confinés chez eux principalement parce qu'ils veulent juste respecter les consignes. Mais on m'a rapporté que du coup à Paris il y avait, enfin j'ai eu un ami hier au téléphone qui m'a dit qu'il était sorti faire ses courses et que c'était comme un dimanche après-midi quoi. Alors qu'on n'était même pas dimanche, que les gens se baladaient dans la rue, qu'il y avait des gens qui buvaient des bières, qu'il y avait des familles même qui se baladaient, enfin vraiment c'était un peu n'importe quoi, quoi. Et qu'il n'y avait pas tant de contrôle que ça et que c'était pas du tout respecté. Donc là c'était lui, il était dans le 20e arrondissement. Après là je viens d'avoir ma copine qui est dans le 16e arrondissement, elle me dit que c'est beaucoup plus calme, qu'il n'y a pas de flics et que les gens sortent pas et respectent le truc, qu'il y avait juste beaucoup de monde au Bois de Boulogne, qu'il y avait des gens qui buvaient du rosé hier ou avant-hier sur les pelouses du Bois de Boulogne.
Donc il y a quand même, quand on voit ce qui se passe en Italie, il y a quand même peu des gens qui comprennent pas trop le problème en France.
Bah en fait c'est hyper partagé, j'ai l'impression, en France. Donc il y a vraiment des gens qui ont pris ça à cœur et qui veulent éviter d'être confinés pendant des mois et du coup respectent les consignes, et ceux du coup qui prennent ça un peu à la rigolade et qui se prend un peu, je pense, rebelle en sortant et faire comme si de rien n'était. Donc c'est un peu mitigé. Après, en ce qui concerne la campagne, ils sont hyper disciplinés. Là, je suis allé au marché ce matin, donc il y avait vraiment les gendarmes. Donc ça, c'est une mesure locale, en fait. C'est le maire qui a mis ça en place. Il a dit, en gros, que le marché était possible aujourd'hui, donc ce matin, mais qu'il n'allait pas être reconduit si, c'était pas, si les consignes de sécurité n'étaient pas bien respectées. Donc du coup, il y avait vraiment une organisation spéciale pour le marché, donc il était sur un espace différent pour qu'on puisse contrôler les entrées et les sorties. Donc il y avait une seule possibilité pour rentrer sur le marché, et du coup, il y avait une allée, donc il fallait faire une sorte de boucle. Et du coup, il y avait des barrières pour éviter d'être trop proche des stands. Donc, c'était un mètre pour être à un mètre des vendeurs et des rayons. Et ensuite, c'était uniquement les vendeurs qui te servaient. Et pour faire la queue, il y avait des marques au sol pour être bien à un mètre à chaque fois.
Ah oui, donc vous avez bien organisé.
Désinfectant. Mmh. Ouais. Donc là, c'est uniquement Saint-Flour dans le Cantal, tu sais. Mmh. Donc là, ça a fonctionné comme ça. Donc c'était hyper efficace. Après, j'ai vu qu'à Paris, c'était totalement l'inverse. Et c'est ce qu'on me dit aussi, quoi. C'est vraiment différent, quoi, entre ce qui est à Saint-Flour et à Paris. C'est vraiment deux écoles. Après, Paris, je pense que c'est hyper divisé aussi, comme j'ai pu te dire, entre le 20e et le 16e, par exemple. C'est pas la même ambiance.
Ouais.
Après, ça dépend aussi peut-être de la structure démographique par âge, tu vois.
Dans le 16e, il y a rarement du monde dans les rues de toute façon. Hein.
Voilà, aussi, c'est ça, exactement. Donc, c'est aussi ça qui joue aussi un peu. Donc, voilà. Puis il y a pas mal de vieux aussi. Et les vieux, bon, bah, ils sont peut-être plus menacés, donc ils font plus attention. Voilà.
Voilà, et maintenant, on va écouter un dernier témoignage qui va sans doute être coupé parce que on n'a pas le temps, mais c'est Béatrice, elle est à Rennes.
Béatrice, toi, tu es dans la région de Rennes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme travail et comment ça s'est organisé pour toi?
Alors, moi, je suis DRH d'une agglomération, de Saint-Malo agglomération. Et en fait, on a mis en place une cellule de crise il y a une dizaine de jours. Quand la crise a commencé à percer. Et puis, on a au jour le jour changé notre fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des annonces gouvernementales, d'abord, on a fait travailler les gens le plus possible. Et puis, au bout d'un moment, on a ramené tout le monde à la maison, sauf les missions indispensables qui sont pour nous la collecte et le traitement des déchets. Donc, tous les gens qui peuvent travailler chez eux, travaillent chez eux. Les autres sont soit en garde d'enfants, chez eux, pas rien faire, soit ils sont en arrêt maladie. Quand ils sont fragiles, on les a incités à aller chez leur médecin.
D'accord. Et donc, quand on est dans l'administration, ça se passe comment en termes de salaire? C'est parce qu'il y a, est-ce qu'il y a du chômage technique? Ça marche pas comme ça dans l'administration?
Non, il n'y a pas de chômage technique. Donc, a priori, mais je dis bien a priori, j'en sais rien aujourd'hui et demain, tout le monde va être payé. Nous, il faudra qu'on imagine quand même de valoriser les gens qu'on continue à bosser sans s'arrêter, et puis faire une différence entre ceux qui gardaient leurs enfants à la maison ou qui étaient malades et ceux qui bossaient à la maison quand même. Et on ne sait pas comment on va faire encore.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà.
Et toi, ça se passe comment pour toi alors ?
Alors moi, donc j'ai bossé jusqu'à mercredi. Mercredi, on m'a dit à 5h vous devez être parti, donc il a fallu que je prenne tous les dossiers que je devais bosser à la maison, prendre mon ordi, m'envoyer les fichiers dont j'avais besoin. Et puis je me suis réveillée jeudi, je me suis dit putain comment je vais bosser à la maison, quoi. C'est l'horreur. Je m'imaginais pas du tout bosser ici. J'ai pas de pièces, j'ai pas internet partout, enfin voilà. Puis bon, j'ai fini par m'organiser, j'ai réquisitionné un bureau, je me suis organisée. Et en fait, depuis que je suis organisée, je suis heureuse comme tout, parce que je vais plus au bureau, parce que je vois plus les gens qui me font chier, parce que j'ai plus des gens qui m'appellent toutes les 30 secondes pour que je leur réponde 30 secondes après. J'ai plus une direction qui déboule dans mon bureau pour leur donner des documents tout de suite maintenant. Donc voilà, je travaille plutôt bien depuis hier. Je suis hyper efficace et puis je suis hyper tranquille. Ça fait 25 ans que je bosse comme une tarée. C'est ma première pause et moi je suis ravie. Voilà. Enfin, et je pense que je vais bosser autant que d'habitude.
Ouais, donc tu dis une pause, mais tu bosses quand même.
Mais je fais une pause dans le stress en fait. Ouais. Une pause dans le rythme de cinglé qu'on a depuis des années en fait.
Et puis t'as le transport aussi parce que ça te mettait du temps d'aller au travail.
Ouais, j'avais 50 km aller, 50 retour.
Voilà, on est obligé d'arrêter Béatrice, on va vous remercier. Et puis, à la semaine prochaine encore.
Ouais, merci Blandine.
Non, et merci à toutes les personnes qui ont témoigné pour nous en France. À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.